C'est l'histoire d'un retour à la Terre pas comme les autres. Céline Laurens vient tout juste de s'installer avec un troupeau de chèvres dans l'idée de produire des fromages bio sur des terres qu'elle a héritées près du village de Lurse en Provence. Il y a encore peu de temps, elle habitait en ville et faisait des documentaires radio. En changeant de vie, elle renoue avec une histoire familiale où il est question d'élevage, de territoire, de souvenirs d'enfance, d'expulsion de paysans du plateau du Cangers où s'installe un camp militaire dans les années 60. Céline a aussi réalisé un documentaire vidéo sur son installation et cette histoire, bientôt disponible, Cangers, Yvette et moi. Fréquence Mistral ne manquera pas de relayer l'information à la sortie du film. Enfin, Céline souhaite faire de ce nouveau projet bien plus qu'un élevage. Elle souhaite y construire un lieu d'accueil pédagogique pour le public, un lieu original de transformation sociale. Tout un programme.
Je reçois ces terres en héritage de ma grand-mère paternelle, qui elle-même recevait ces terres de son grand-père. Donc du coup, c'est un lieu qui est dans la famille depuis un siècle, mais qui a peu été travaillé. Mon grand-père avait la main mise sur le patrimoine de ma grand-mère, et à cette époque-là, c'est lui qui a décidé en fait de pas s'occuper de cet endroit, et il a comme déshérité ma grand-mère, en estimant en fait qu'il avait aucun lien à voir avec la terre, l'agriculture, que c'était des cutéreux. Et à cette époque-là, dans les années 60, voilà, c'était la marche vers la modernité. On n'allait certainement pas s'encombrer avec des terres et une maison. Donc il y avait une ferme qui datait du 18e siècle. Et à cette époque-là, en fait, on avait la coutume de détoiturer les maisons pour ne plus payer d'impôts. Donc du coup, la ferme a été détoiturée et tout est tombé en ruine. Ben, j'hérite d'un champ de ruines, d'un champ laissé à l'abandon depuis les années 60. Aujourd'hui, avec la crise climatique et les multiples crises de notre époque moderne, moi j'avais envie d'y apporter un souffle nouveau et aussi de m'occuper d'un lopin de terre me tient à cœur parce que j'ai l'impression que c'est la nécessité et qu'aujourd'hui, si tout le monde rachetait des forêts et se remettait à cultiver et se réapproprier toutes les terres, ben, le monde aurait un autre visage en fait.
Et vous avez décidé d'élever des chèvres.
Ça vient en fait de mon autre grand-mère maternelle. C'est avec elle que j'ai appris à marcher, c'est avec elle que j'ai trimballé les chèvres quand j'étais petite dans la colline. Donc c'est avec elle que j'ai fait mes premières gardes. Quand on trouvait des cartouches de chasseurs au sol, on les récupérait, on les mettait au bout de son bâton de bergère et on tirait sur les avions, on tirait sur les voitures. Donc en fait, cette grand-mère, Yvette, a peuplé mon imaginaire par sa fantaisie, sa joie de vivre, son amour pour les chèvres. Elle m'a appris à faire les premières traites, j'ai vu comment elle faisait ses premiers fromages. Et en fait, cette femme m'a légué une force vitale, un amour pour les animaux et les plantes, une joie de vivre. Et je pense que c'est aussi pour lui rendre hommage. Je me sens en lien avec mes deux grand-mères et au regard de la situation actuelle et de ma propre vie, en fait, c'est comme si tout s'était relié et faisait sens que je m'installe ici sur ces terres, donc sur les terres qui viennent de ma grand-mère paternelle, avec l'activité que j'hérite de ma grand-mère maternelle. Du coup, il y a comme une convergence des grand-mères. C'est une histoire de grand-mère.
Une histoire de famille.
Voilà. J'ai grandi dans cette ferme aux côtés de ma grand-mère et eux sont arrivés ici dans les années 73. Et donc ma famille a toujours été une famille de bergers et ils sont venus ici en 73 parce qu'ils ont été expropriés par l'armée du Var parce que l'armée en 73 a construit le plus grand camp militaire d'Europe et réquisitionné 35 000 hectares. Donc c'était 5 fois à 7 fois plus grand que le projet d'extension du camp militaire du Larzac. Ça a duré pendant 10 ans et c'est la première ZAD historique de France. C'est la première zone d'aménagement différé qui s'est faite en fait sous la Ve République. Ma famille était bergère sur ce plateau varois qui était une terre dédiée au pastoralisme, un plateau calcaire très sec, très aride avec beaucoup, enfin des richesses de sol, avec de la fétuque et de l'aphyllon de Montpellier, des plantes riches pour le pastoralisme.
Et ensuite, ils sont venus ici.
Ils ont cherché pendant des années parce qu'en fait, le projet de construction du camp militaire date des années 50. C'est une vague au niveau du ministère de la Défense de renforcer les camps dans tout le pays. Ensuite, en 62, la France, on va dire, perd l'Algérie ou l'Algérie regagne son indépendance. L'armée française perd aussi tous ses déserts algériens où elle faisait des expérimentations avec des armements militaires. Et donc, elle s'est vue aussi empressée et il fallait trouver des grandes zones désertiques en France pour remplacer ce qu'elle perdait comme surface d'occupation. Et donc, ils ont cherché en France les plus grands territoires, les moins peuplés, où il y avait des zones de désertification les plus importantes. Et donc, ils ont choisi cette zone du plateau de Canjuers où il y avait peut-être 400 personnes qui habitaient encore là-bas. Parce qu'en fait, tous les propriétaires terriens de l'époque de Canjuers avaient déserté en fait cette zone, étaient partis en exode rural vers la côte, où là, il y avait l'attrait de la modernité, toute une vie nouvelle en fait qui pullulait dans les années 60. Et donc, ils ont laissé tomber ce plateau désertique qui était très enclavé, où il y avait très peu de lignes électriques, de lignes d'eau et tout ça. Ils avaient plus de lien affectif avec leur terre. Et donc, ils ont vendu très rapidement à l'armée. C'est pour ça qu'en fait, ça s'est fait déjà dans les années 60, parce que presque toutes les terres ont été vendues à ce moment-là. Et ma famille, eux, ils étaient locataires et donc du coup, ça a pris plus de temps à ce qu'ils retrouvent des terres et ils les ont trouvées finalement ici, à Fort-Calquier, là où j'ai grandi. Et toute mon enfance, j'entendais parler de Canjuers ou de Préguillon et en fait, j'avais l'impression que c'était un pays imaginaire où il y avait quelque chose d'un peu fantastique autour de ces noms. J'ai compris un jour que c'était un espace dans lequel on pourrait plus jamais aller. Et beaucoup de gens disent que c'est ça qui aurait tué mon grand-père. Et beaucoup de gens disent que c'est ça qui aurait tué les gens de leur famille qui étaient attachés à leur terre. Cette question-là, je crois, m'a longtemps travaillée. Et je me suis demandé comment c'était possible que des gens puissent mourir de ne plus être reliés ou ne plus être en lien avec leur terre. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'ils faisaient ou c'était quoi cette époque, qu'est-ce qui constituait la culture du territoire de Canjuers pour que les gens aient un tel attachement à ce territoire, à ce paysage, à leurs animaux, à cet espace sauvage, qu'est-ce qu'ils pouvaient y trouver là-bas de si singulier qu'ils n'ont jamais pu retrouver ailleurs. Et donc du coup, une part manquante, quoi, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé.
Vous avez fait un film sur cette histoire et sur aussi cette nouvelle histoire, on va dire, qui est votre réinstallation, votre installation plutôt, en élevage de chèvres, ici, à l'URSS.
J'ai été réalisatrice documentaire, plutôt dans le son, je travaillais sur France Culture. J'ai déjà fait une émission sur ce thème, qui s'appelle « Canjuers, territoire interdit ». Et là, en fait, j'ai décidé de faire un film qui serait la continuité de cette première émission, de ce premier travail de création documentaire, où là, je traite de l'héritage de la mémoire pastorale de ce pays perdu de Canjuers, avec moi mon choix contemporain de m'installer sur ces terres. Donc du coup, je filme au jour le jour la naissance des chèvres, leur croissance, quoi, leur développement, les premières gardes, les premiers soins. Et en même temps, je mène l'enquête auprès des gens de ma famille pour reconstituer la singularité de ce plateau où justement des gens pouvaient mourir d'être séparés de leur terre, tellement que cet endroit était singulier, sauvage, austère ou aride, et ça forgeait des personnes qui avaient un rapport à la nature singulier. J'essaye de maintenir vivante cette mémoire en créant moi-même un lieu qui va être totalement dédié à la puissance du vivant, à la nature, à des espèces de plantes locales, endémiques, qui peuvent avoir des vertus médicinales, et aussi travailler sur une dimension maraîchère, mais sur des vieilles variétés, des variétés anciennes, peut-être constituer un verger aussi de variétés anciennes, parce que donc j'ai aussi des notions en naturopathie. Les questions nutritionnelles me tiennent à cœur, et toutes les maladies civilisationnelles qui se sont développées depuis les années 60, depuis les grandes recherches de l'INRA autour de sélection variétale, qui ont développé en fait soit les pourcentages de gluten à l'intérieur des céréales de blé, par exemple, soit favoriser des espèces fruitières plus sucrées. Et donc moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est justement de retrouver des variétés anciennes avant ces grandes vagues de sélection variétale, qui étaient des variétés qui étaient plus facilement transformables au niveau agro-industriel et donc qui étaient plus facilement travaillables pour des machines et du travail en série, et qui sont très pauvres sur un plan nutritionnel, parce qu'une pomme qu'on mange aujourd'hui, elle est 150 fois moins riche d'un point de vue nutritionnel qu'une pomme d'une variété des années 50, par exemple. Aujourd'hui, notre alimentation moderne est appauvrie au niveau micronutritionnel. Ce qui me tient à cœur, c'est de maintenir vivantes des vieilles variétés et de faire un travail de sensibilisation aussi aux protéines animales, de réfléchir à l'alimentation quand on consomme des produits laitiers, par exemple, de permettre à des gens de venir se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire traire des chèvres, qu'est-ce que ça veut dire pour la chèvre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'humain, qu'est-ce que ça veut dire pour la forêt. J'ai envie de créer un lieu pédagogique où on va repenser les questions alimentaires sur des petites échelles, plus riche nutritionnellement, plus riche humainement et plus respectueuse aussi des animaux. C'est dans cette dimension un peu holistique et globale en fait que je choisis de devenir paysanne aujourd'hui en fait.
Alors c'est plus qu'un élevage de chèvres, on est vraiment dans une forme de vie, dans une philosophie de vie quelque part, quelque chose d'un projet très large.
Pour moi, c'est un acte militant, c'est-à-dire que j'ai envie qu'à partir de cet endroit, d'autres gens puissent s'en inspirer ou qu'il y ait des échanges, pouvoir accueillir, faire de la pédagogie, que cet endroit soit aussi un lieu vecteur de transformation sociale, soutenir en fait la possibilité d'être en lien avec des plantes, de la terre, des animaux, parce qu'en fait je me rends compte par exemple que certains enfants, mais aussi des adultes en fait, peuvent avoir peur de mettre les mains dans la terre parce qu'ils considèrent que la terre c'est sale, ou ils peuvent avoir peur de s'approcher des animaux parce que c'est sale, ça sent mauvais, ou il y a des crottes ou des choses comme ça. Là l'idée c'est d'expliquer d'un point de vue physiologique et d'un point de vue biologique pour désataniser et pour se refamiliariser et pour pouvoir avoir une expérience sensible et sensorielle. En tant que naturopathe, je fais des consultations et en cabinet, je fais de la pédagogie pendant 2 heures. Mais je me rends compte que ce que je transmets, c'est de l'information. Pour qu'une pédagogie soit positive et bien ancrée, on a besoin de vivre des expériences sensorielles.
Donc l'idée, c'est aussi de créer un lieu d'accueil pédagogique.
Voilà, je vais essayer de trouver des formats miniatures pour faire des mini-groupes, peut-être jamais plus de 10 personnes, dans des temps particuliers, avec des thématiques particulières, vraiment pour aller en profondeur, pour permettre de vivre des expériences qui vont changer nos représentations et notre rapport sensible aux animaux, aux plantes, aux éléments qui nous entourent.
Là, concrètement, aujourd'hui, le troupeau de chèvres, ça représente combien de bêtes et quels sont les projets sur le court terme très concrets que vous allez mettre en place?
Donc là, je suis arrivée depuis le 18 octobre sur ces terres, ici à l'Urs. Donc, la ferme des perroquets, ça vient du provençal Peyre-Rouquet, qui voudrait dire pierre rouge. Et ce serait un topographe de l'hygiène qui aurait transformé ça en perroquet. Donc du coup, la ferme des perroquets accueille un troupeau de 28 chevrettes. Elles vont rentrer en lactation, donc je vais pouvoir commencer à les traire en mars 2021. Et je vais faire, dans un premier temps, des fromages lactiques. Voilà le fromage le plus simple à réaliser. Il suffit de mettre quelques gouttes de présure dans le lait, du petit lait, et le lendemain, on moule et ça fait du fromage par séchage.
Et d'un point de vue purement économique, vous allez en vivre, vous allez vendre dans les magasins bio du coin, vous avez déjà des liens?
Je fais étape par étape, j'aimerais faire que de la vente directe, vendre à la ferme, vendre dans des AMAP, vendre sur des marchés, vendre sur des plateformes de type La Ruche qui dit oui, créer des lieux ou trouver des espaces où je vais pouvoir vendre directement là où il y aurait des commandes regroupées par exemple. Donc je suis accompagnée par l'État pour faire ça puisque je reçois une dotation jeune agricultrice. À partir de 2021, je serai agricultrice à titre principal et donc je m'engage dans cette activité pour les 4 à 5 années à venir à plein temps à titre principal. Ça veut dire que ça sera donc mon revenu.
Alors, si on est intéressé par vos futurs fromages, comment on vous trouve ?
Les perroquets, on trouve ça facilement sur Internet. Et je vais créer un site Internet qui s'appellera La Ferme des Perroquets et on pourra avoir mes coordonnées et on pourra venir directement à la ferme pour acheter des fromages.
Merci Céline.
Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer.